Ce matin, qu'est-ce qui brûlait ou depuis quelques jours, qu'est-ce qui brûle ou qu'est-ce qui vient dans mon cœur? Nous sommes dans des temps de... Bon, elle est partie. Va taper, viens t'inciter. Donc, nous sommes dans des temps de prière, nous sommes dans des temps de jeûne et prière. Je ne sais pas si nous avons jeûné ou qu'on a été dans ces directions-là. C'est toujours bon de jeûner. Hein, tu dis, je vais jeûner et que j'ai faim. Alléluia. Je vais jeûner, mais j'ai faim. Donc, il faut combattre la chair, hein, n'est-ce pas? Donc, il faut aller de l'avant. Moi, j'ai pris quelques temps aussi avec ça. Et il y a des choses qui sont descendues dans le cœur. Et ce matin, ça va peut-être vous brasser un peu les idées. Et c'est mon but. Vous me connaissez, j'ai un franc langage. Je suis un gars transparent. J'ai rien à cacher. Qu'est-ce que je prêche? J'ai bien des choses que je vis. Et j'essaie de m'en venir à la parole de Dieu. Ce message est pour vous, puis il est pour moi. Si je vous le prêche, je me le prêche. Alléluia, parce que moi aussi, j'ai des combats, j'ai des luttes. Puis aller prier, c'est pas toujours facile. Dis à ton voisin, « Oh, c'est pas facile. Oh, non, c'est pas facile. » Alléluia. Donc, j'aimerais lire avec vous. Hébreux, on va commencer Hébreux, chapitre 4 et le verset 16, juste le texte de base. Ça nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. » Seigneur, les besoins sont grands, on va le dire, les vraies choses, Seigneur, mais on peut s'approcher, Seigneur, avec toi, près de toi, cœur à cœur avec toi. On est assis déjà dans les lieux célestes avec toi, comme Paul nous enseigne. Père, je te prie que le message ce matin soit un message de prise de position. Seigneur, nous avons besoin de réaliser que ton royaume désire agir et que tu cherches des hommes et des femmes qui sont prêts à continuer la mission pour combattre le bon combat de la foi. Seigneur, je te prie de bénir, d'encourager, de relever, de restaurer, Seigneur, nos cœurs et nos âmes devant toi. Père, dans le nom de Jésus, amen et amen. J'aimerais dire en entrée de jeu que chacun de nous, nous sommes invités à nous approcher du trône de la grâce de Dieu avec une assurance. C'est-à-dire que l'assurance, c'est pas d'être rejeté, mais c'est d'être une assurance que le Père va entendre nos prières. J'aimerais dire que Dieu désire entendre vos cœurs, vos désirs, vos difficultés, vos projets, tout ce qui va pas dans votre vie, il veut l'entendre. C'est un papa. Un père désire entendre le cœur de son fils ou de sa fille. Et ce verset nous enseigne de venir avec lui avec confiance. La confiance, c'est d'être confiant, c'est d'être courageux et c'est d'être ferme également. Donc, l'apôtre Jacques nous dit dans verset 5, et chapitre Jacques, chapitre 5, verset 16, ça ne va pas même mon affaire. Donc, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, la prière du juste a une grande efficacité. Donc, ça démontre une intention, un sentiment d'enthousiasme. Retrouver Dieu, notre cœur devrait être content. Alléluia. Tu pries avec confiance que Dieu va entendre la prière. Quand nous prions, il faut prier avec conviction. Allô? Pas des prières mortes, pas des prières qui n'ont pas de vie. Dieu, il t'a mis la vie et Dieu veut que tu sois dans la vie dans la prière. Dieu veut toucher vraiment notre cœur à travers nos besoins. La prière doit avoir une portée qui touche le cœur de Dieu. La prière vivante, c'est une prière que ton cœur est rempli d'espoir. Quand tu pries avec ferveur ou tu es dans la chambre de prière et que tu commences à aller dans l'avant, t'as un espoir que Dieu va te toucher. T'as un espoir de toucher le trône de la grâce de Dieu. T'as espoir que ta prière va être entendue. T'as espoir à quelque chose. Une prière qui monte vers le ciel. Le Saint-Esprit désire que tu sois actif dans la prière. Des prières audacieuses, des prières qui vont toucher le trône. Pourquoi je dis ça? La prière, premièrement, fervente du juste, nous approche du cœur de Dieu. Elle nous introduit dans une communion avec lui. Deuxièmement, elle permet également que notre vie soit remplie du Saint-Esprit. Troisièmement, elle nous accorde la puissance en vue du ministère. Quatrièmement, elle nous édifie spirituellement. Cinquièmement, elle nous fait connaître les bénédictions de Jésus-Christ qu'il a en réserve pour nous. Sixièmement, elle nous aide à vaincre Satan et nos ennemis. Elle clarifie la volonté de Dieu à notre égard. Huitièmement, elle nous accorde la grâce et la bénédiction, la miséricorde en vue de notre paix. Neuvièmement, elle nous amène à avoir un fardeau pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Dixièmement, elle nous communique la sagesse, la révélation de sa connaissance. Onzièmement, elle nous apporte la guérison, la délivrance que nous sommes affligés. Et douzièmement, la prière nous fait entrer dans la présence de Dieu. Et treizièmement, elle nous rassure notre salut. Wow! Juste ça, là, on a pour des semaines d'études à ce que je viens de vous dire là. Jacques chapitre 5, je le répète, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière de Élie, elle était fervente. C'est une prière qui avait de l'ardeur. Et on sait que le prophète Élie a combattu avec l'idolâtrie, les faux prophètes, Astéré, les Baals, des forces occultes. Et Baal, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire maître. Et le dieu Baal de l'époque était le dieu de la fertilité du sol et de l'orage, soit de la pluie. Et nous savons que la reine d'Isabelle a fait entrer le peuple d'Israël dans l'idolâtrie pour les détourner du vrai Dieu vivant. Mais Dieu envoie un prophète qui est à l'écoute de Dieu. C'est bon, hein? Quand tu es à l'écoute de Dieu, Dieu t'envoie. Dis ça avec moi. Quand je suis à son écoute, Dieu m'envoie. Dis-le, quand Dieu me parle, j'y vais. Dis-le, quand Dieu me parle, j'y vais. Non, et le prophète Élie a été à l'écoute de Dieu. Il va aller vers Achab, le roi Achab, la femme de Jézabel. Et le prophète Élie va lui dire, 1er roi, chapitre 17, verset 1, « Et Élie, vous passez le mot, l'un des habitants de Galaad dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura 16 années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Dieu va démontrer qui chauffe. Il va démontrer qui règne. Alléluia. Ce ne sera pas Baal qui va contrôler Dieu, mais Dieu va démontrer sa puissance. Dieu veut démontrer qui va régner. Il y a une chasseresse pendant 3 ans et demi et on voit ici un homme s'élever, un homme de combat, un homme qui n'a pas eu peur d'aller vers un roi sans prendre l'audace. Il faut que tu sois rassuré. Mais l'homme de Dieu qui est dans la prière, l'homme de Dieu qui reçoit, n'a pas peur de se lever. Allô? Quand tu es conduit avec l'Esprit et l'onction du Saint-Esprit, il y a des choses qui se passent. Un vrai soldat qui est entraîné dans la prière prend position pour son Dieu. Un homme de conviction, c'est un homme qui est à l'écoute de Dieu. Notre lutte est réelle et j'ai besoin d'être inspiré dans mon esprit par le Saint-Esprit pour être efficace. Et le Saint-Esprit, il y a un rôle à jouer dans l'Église. On ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a descendu à la Pentecôte et les hommes ont été oints pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Des hommes d'audace, de courage, des hommes d'onction. Et l'Église a besoin de revenir à l'onction. Dites-moi un gros amen un matin. Nous sommes l'Église, nous ne sommes pas les gens de l'extérieur. Nous sommes un peuple à part qui démontre la royauté d'un roi qui vit dans nos vies. Nos pensées doivent rester sur l'Évangile. J'irai encore plus loin. Avez-vous de misère dans la prière? Ou vos pensées vont s'égarer? Même parfois, on peut s'endormir dans la prière. Ça m'est arrivé, t'as fatigué, puis ça... Soyez honnête, comment c'est déjà arrivé ici, là? Amen. On a tous nos combats. Alléluia. Prenons l'habitude, je dirais, d'enlever ce qui peut nous distraire. Le Saint-Esprit désire que tu pries avec intention. Chacun de nous, je vais y revenir tantôt, là, chacun de nous a ses faiblesses, ses combats, ses luttes. Chacun de nous a des victoires à aller chercher. As-tu une victoire à aller chercher un matin? Si tu n'en as pas, viens de voir, je vais t'en tenir. Tu vas avoir une liste, une semaine pour prier pour moi et plus. le Saint-Esprit désire, de notre part, une passion sincère, une passion inébranlable, une prière, la persévérance de la foi et de l'audace. Souvenez-vous du récit dans Luc, chapitre 18, verset 1 au verset 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et point se relâcher. Jésus dit ici, il ne faut pas que tu te relâches, il faut que tu continues à prier. Donc, il veut que tu aies une communion avec lui et surtout de ne pas se relâcher. Se relâcher, ça veut dire de ne pas perdre courant, de ne pas se lasser. C'est encore plus fort comme mot, ne pas se lasser. Jésus désire que son Église prie, qu'il entende. Donc, pour sa volonté se fasse dans ta vie, la prière, la communion avec notre Dieu par le Saint-Esprit, c'est un lien nécessaire. Tu as besoin d'être inspiré dans la prière. Donc, si tu pries 2 minutes, tu vas avoir une inspiration de 2 minutes. Si tu pries 30 secondes, tu vas avoir l'inspiration de 30 secondes. Alors, comprenez-vous ce que je suis en train de dire là? Dieu veut que tu t'enfermes. Dieu veut répondre à nos besoins. Et cette femme nous dit, Luc, chapitre 18, verset 27, Jésus leur montra une parabole qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma part adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais quelque temps par ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. » Et Dieu dit, n'aurait-il pas justice à ses enfants, à ses élus, qui crient jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Écoutez bien, on va développer ça. Jésus nous enseigne par une parabole. Et vous savez, une parabole, c'est une histoire terrestre avec une signification céleste, que je pourrais dire. Sinon, c'est un parallèle d'une vérité pour illustrer une vérité. Et Jésus, dans cette parabole, a... Pourquoi qu'il nous enseigne de toujours prier? Ben, ça ne vient pas de moi, loin. Verset 2, il dit qu'il y avait dans la ville un juge qui craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard à personne. Ici, un juge qui n'a pas la crainte de Dieu et qui se moque des gens, qui est hautain, qui ne veut rien savoir des autres, un homme indépendant, un juge, un homme de loi, un homme lettré, et c'est lui qui donne les verdicts et c'est lui qui prend aussi les dossiers pour plaider la cause. Et verset 3, il y avait une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie inverse. » Cette femme est affligée, elle est opprimée, sa partie adverse lui donne la difficulté, personne ne veut l'entendre. Cette femme demande au juge « Écoute ma cause. » Mais le juge refuse d'écouter sa cause. Il n'a pas d'intérêt à prendre ça en charge. Mais cette veuve, relâche pas. Puis je vais prendre ce matin de « Relâche pas. » Dis à la personne « Je relâche pas. » L'histoire de fond de ce récit, c'est « relâche pas ». Donc, cette femme veut se faire entendre. Elle est tenace. Cette femme revient régulièrement à la charge. Faites de même. Revenez à la charge. Abandonne pas ton bonbon. Abandonne pas quand c'est temps de batailler, c'est pas temps de mettre ça de côté. Or, la foi, Hébreux 11, 1, or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on n'espère pas, une démonstration de celles qu'on voit pas. Cette femme reste dans la foi. Malgré ses refus, elle est une battante. Elle continue, elle croit, elle ne doute pas, elle continue à frapper à la porte. Sa foi est forte, sa foi est déterminante, elle est engagée. C'est la force de l'Église, l'engagement. Sa foi ne perd pas courage. Elle passe, il se passe. Laissez-moi vous dire, on est très, très ignorant du monde spirituel. On est très évasif avec le monde spirituel. Vous savez, quand l'Église prie, j'ai pris juste deux textes parce qu'il y en a tellement. Quand Pierre qui est en prison dans Acte 12, parce que Pierre était pour se faire lapider, était pour se faire tuer, l'Église a prié. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange pour le délivrer. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans votre Bible. Quand encore le Daniel qui a prié pendant, il attendait une réponse, ça a pris 3 semaines et demie avant qu'il y ait une réponse. Et la Bible nous dit dans Daniel 10 qu'il y avait un ange territorial qui a empêché que la prière que de Daniel vienne. Il y a des combats, mes amis. Il y a des combats. On ne le voit pas dans le naturel, mais dans le spirituel, la Bible nous enseigne ces choses-là. Allô? J'invente rien, là. Donc, cette femme, elle s'efforce. Elle veut continuer. Mais Satan va toujours s'efforcer contre l'œuvre d'anéantir vos prières et de ne pas être des gens actifs ou des gens que Dieu répond. La prière, elle est réelle. La prière fait bouger le bras de Dieu. La prière active du cœur, ça fait que quelque chose qui se passe dans ta vie. Un éveil spirituel, ça commence là. Même si tu dirais à tout le monde tes problèmes, il n'y a rien qui va changer. Parce que c'est Dieu qui change les situations. Mets ton cœur devant Dieu. Hébreux 6, 12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Faut lire, là. Donc, c'est-à-dire qu'un combat, là. Cette femme est victorieuse. Elle veut être victorieuse. C'est une battante. Elle a vu la victoire. Sa foi visualise une percée spirituelle. Visualisez-vous ce matin une percée spirituelle dans vos vies? Est-ce que tu vois déjà la victoire s'en venir? Alléluia! C'est comme ça que ça fonctionne, la foi. La foi veut voir l'exaucement de ses requêtes. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi glorifie Dieu. La foi ne croit pas simplement que Dieu existe, mais la foi croit que Dieu va rémunérer ton besoin. Elle saisit la promesse. C'est lui qui accorde la victoire. C'est lui qui va venir te parler. Alléluia. C'est lui qui va exaucer. Tu vas voir les chemins se frayer devant toi. Tu n'auras pas besoin de courir parce que Dieu a entendu les choses. 18.4, Luc 18.4, pendant longtemps, c'est-à-dire que c'était long son affaire, pendant longtemps, il refusa le juge. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai pas d'égard pour personne. » Cette femme, la porte est toujours fermée. Mais il y a un commencement ici, il y a une percée qui commence à y avoir. Lisez le texte, relisons. Mais ensuite, il dit en lui-même, il commence à réfléchir. Il y a une percée qui commence à arriver ici. Il y a quelque chose, à force de frapper, Jésus commence à être fatigué, là, et fatigant, et tenace. Mais il commence à avoir une percée. Comprenez-vous? La foi, la persévérance, l'audace. Il se questionne. Je n'ai peut-être pas la crainte de Dieu, mais je suis fatigué qu'elle vienne à la porte. Cette femme persévère, elle frappe, elle veut se faire entendre. La persévérance commence à donner un fruit, une brèche qui est en train de s'ouvrir. Matthieu 7, 7, « Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » La prière, je dirais de tout cœur, sera accordée avec ceux qui prient sincèrement et sans relâchement. Allô, dites-moi un gros amen le matin, là. Amen. Dieu veut que tu sois engagé. Dis à la personne à côté de toi, je veux être engagé. Je veux l'être engagé. Je veux que ça bouge. Alléluia. La prière, le chrétien doit prier avec foi. Jacques, je vous lirai Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8. La prière du chrétien doit prier, un, avec foi, se conformer à la volonté de Dieu et de prier avec instance et prier avec sincérité. C'est les clés de la prière. Cette femme frappe, mais elle ne perd pas courage, comme je viens de dire. Elle demande que sa requête soit entendue. J'aimerais dire honnêtement, je me mets avec vous ce matin, nous perdons souvent courage. On dirait que nos prières ne sont pas entendues. On met nos requêtes de côté. Ça donne à quoi prier sur ça? Combien de fois j'ai entendu des chrétiens très négatifs? On a prié et ça n'a pas marché. Mais continue. Si tu crois que c'est dans la volonté de Dieu, continue. Lâche pas de morceaux. Rentre pas dans le négatif. Rentre pas dans toutes les choses qui vont tenir. Reste ferme. Arrêtez d'avoir un langage négativement dans la foi. La foi ne marche pas comme ça. La foi marche. Si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, continue. Continue. Même si les gens te disent « t'es fou », t'es pas encore assez fou parce que tu n'as pas eu la réponse de Dieu. Continue. Persévère. Le relâchement fait que notre ténacité nous fait relâcher. Notre foi va s'affaiblir. Et on oublie de revenir à la charge. Le désir de prendre du temps avec lui n'est pas toujours présent. Trop souvent, on se trouve d'autres occupations que d'aller dans la chambre de prière. Je vais aller encore plus loin. Nous sommes occupés. Moi, je peux vous dire, là, jamais non, quand on va arriver à la retraite, on va prendre ça plus relâchement. C'est encore pire. Tu es déjà occupé, c'est encore pire. Je ne connais pas vraiment le temps de relâchement. Je vais être franc avec vous, là. Le matin, c'est la prière, c'est la lecture, c'est la méditation, et puis toutes les choses de la vie. Ça bouge. Mais j'aime ça comme ça. C'est ma vie, ça. Souvent, on est comme un peu comme Marthe. Jésus vient, hein, comme Marthe, Marie, puis Marthe a vu les choses de la vie. Elle n'est pas trop contente que sa sœur ne vienne pas l'aider. Et puis elle, Marie, est assise aux pieds de Jésus, puis après, elle abreuve ses paroles. Marthe est occupée. Occupée. Qui est occupé ici? Je l'ai dit souvent, les gens arrivent de travailler ou c'est le temps du travail, puis d'aller travailler entre nouvelle TVA, entre un téléroman ou entre un film, ou entre les enfants, ou entre... Puis là, tu vas aller me coucher, je suis fatigué. Tu passes une journée, c'est pas pire, mais quand tu passes un mois, ça ne va plus. Je connais des gens qui se lèvent à 4 heures du matin puis qui prennent un temps de dévotion avant d'aller prier, avant d'aller travailler, qui vont lire leurs paroles avant. J'ai resté dans tous les voyages, j'ai resté sur des médecins, des hommes de grande capacité, puis je voyais ces hommes-là à 3h30, je les entendais prier pour leur famille avant d'aller travailler. Combien de fois j'ai entendu des choses comme ça? Puis ces gens-là se couchaient à 9h30, 10h, fatigués, des grosses journées, puis je les entendais pleurer devant le Seigneur. C'est touchant d'entendre ces choses. Des gens qui ont un cœur de voir les choses bouger. Il croyait que Dieu était pour agir. Le croyez-vous, vous? Et Marthe, elle aimait Jésus, mais elle s'occupait d'autre chose. Marthe est occupée. Et souvent, c'est ça qui arrive. Le Saint-Esprit nous interpelle pour aller à la rencontre. Et là, on va faire autre chose. J'ai appris et j'apprends. J'apprends à la dure école. Moi, je vous l'ai toujours dit, j'ai appris dans le tas. Malgré qu'on avait le collège, j'ai appris dans le tas. Et souvent, aujourd'hui, je m'arrête, je dis, mais non, j'ai le goût d'aller en prière. Écoute, qu'est-ce que tu veux écouter? Moi, j'ai le goût d'aller prier. Je commence à m'écouter. Je commence à dire, je vais m'écouter. Je sens que j'ai besoin de prier. Je ressens ces choses-là. Et vous? Moi, je suis là, là. Je ressens ce désir-là et là. Tu sais, fait que je veux voir les choses de Dieu. Mais il faut que je m'abandonne pour ces choses-là. Si je veux mes réponses, si je veux des réponses à mes prières, il faut que je dise, Seigneur, que ta volonté se fasse, que ma chair diminue, puis toi, tu grandis. Honnêtement, il faut se faire violence. Écoutez bien, je vais vous donner quelques conseils. Pour ma vie personnelle, quand je fais dans mon bureau, ma tête, laisse-moi dire que c'est une machine. Ça tourne dans ça, là. Puis pour m'arrêter, bien... faut que je mette des choses de côté. Donc, Internet, mets ça de côté. Téléphone, mets ça de côté. J'essaie de mettre une petite musique douce. Puis honnêtement, là, je fais toutes les... Puis je vous le dis, là, je suis franc avec vous. Toutes les possibilités de vider ma tête. J'arrête, je me dis, là, tête, arrête de tourner. tête arrête de tourner. Ça tourne, ça tourne. Puis je fais tous les efforts possibles pour me concentrer sur le Seigneur. Pas de téléphone, pas d'Internet. J'essaie d'éviter toute discrétion. Toute distraction, plutôt. Et je commence à louer le Seigneur. Je le fais en esprit vérité. Et je prie, et je vous l'ai dit souvent, je prie en langue, énormément. Et la prière en langue, ça met un stop à ça. Et quand je commence à prier en langue, premièrement, je rentre dans ma nouvelle patrie. La raison est simple. Parler en langue, c'est mon édification personnelle. Je vais juste parler d'un point, un jour, vous enseignerez plusieurs points sur le parler en langue, mais c'est pour m'édifier. Donc, celui, 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, le parler en d'autres langues, ça va recharger ton esprit. Et ça va construire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Le mot grec pour le mot édification, c'est wakodomaos. C'est le seul mot que je sais bien prononcer en grec. Wakodomaos. Et le mot wakodomaos veut dire bâtir une maison depuis sa fondation, ériger un immeuble, remettre en bon état, rebâtir, réparer, fonder et établir. Donc, parler en d'autres langues, laissez-moi vous dire, si vous lisez la vie de l'apôtre Paul, quand il dit « Paul, moi, je prie en langue plus que vous tous. Il est dans les bateaux, il est dans les naufrages, il est flagellé, il est dans les cages aux lions. Paul est partout. La seule façon qu'il se remonte, il prie en langue. Lisez l'histoire de Paul. Vous allez voir que cet homme-là, il avait des combats, il était dans les combats, mais il se remontait le moral spirituellement. Il s'édifiait par le parler en d'autres langues. Il se sentait rebâti. C'était son moyen de Paul de se relever. Quand tu parles en langue, tu rentres dans les eaux profondes du Saint-Esprit, dans le cœur même de Dieu. Je crois que c'est là que l'Esprit de Dieu vient nous rafraîchir, vient nous parler. Il vient dans ton être nouveau, dans ton homme nouveau. Alléluia! Parce que vous vivez avec un homme nouveau. Vous savez, moi, je vis avec un homme nouveau. Je suis en nouveauté de vie. Alléluia! Non? Êtes-vous né de nouveau? Si vous êtes né de nouveau, vous vivez avec un homme nouveau. Vous vivez avec le royaume de Dieu. Alléluia! Oh, mes amis, oh, qu'on a besoin d'aller plus loin encore. Je vais aller encore un petit peu plus loin. Le Saint-Esprit désire nous rapporter, de nous donner à chacun de nous un ressourcement spirituel. C'est une puissance extraordinaire, le parler en langue. Paul nous dit, Colossiens 3, 1 et 12, « Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses du monde, les choses du royaume des ténèbres. » Est-ce que c'est ça qui est écrit? Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut. Donc, oh, on se bite où, là? Il dit, affectionne-toi aux choses d'en haut. Cherche les choses d'en haut. Alléluia! Et non celles qui sont sur la terre. Le Saint-Esprit désire que tu recherches son royaume. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Quand on parle du royaume de Dieu, des fois, on dirait, c'est agaçant. Ben écoutez, moi, je vis dans un nouveau royaume. Et vous? Je veux être éduqué dans mon nouveau royaume. Je ne cherche pas au royaume du monde. On sait qu'il s'en va à la perte. C'est pas notre destinée. Donc, je veux découvrir qu'est-ce que Dieu a pour moi. Dans la prière, ça m'a emporté ces choses-là. Le Saint-Esprit veut faire vivre en moi son royaume. Une vie de prière, c'est une vie de puissance. C'est une vie où tu vis avec la vie du ressuscité. Alléluia! Ça doit être passionnant. Reste pas à la porte. Reste pas à la porte. Trop de frères et sœurs restent à la porte. On n'est pas religieux, on est né de nouveau. On est né de nouveau. Né de nouveau, c'est quoi naître de nouveau? C'est le royaume, c'est le changement, c'est la culture, c'est la mentalité, c'est d'adhérer à quelque chose de nouveau. Recherche, entre dans l'héritage. La Bible nous dit, Luc 10, 41. Le Seigneur dit, répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Voyez-vous, les inquiétudes de la vie nous font perdre de vue qu'est-ce que Dieu a pour nous. Fais comme la sœur, fais comme Marie, rentre dans ma présence. Viens dans ma présence. Arrête-toi, je veux te parler. Verset 42, Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. C'est à nous tous d'être des Marie et non des Marthe. Allons dans la chambre de prière et on ne combat pas assez. La victoire vient pour une église ou la vie personnelle quand on est prêt à s'humilier devant le Seigneur, quand on lui expose ses besoins. Dieu, je l'ai dit tantôt, veut votre cœur. Et la bonne nouvelle, à travers cette parabole, cette femme va recevoir une parole encourageante, fortifiante. Le juge lui dit, verset 5, « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » J'aime le mot « néanmoins ». Néanmoins. Que veut dire « néanmoins » ? À plus forte raison. C'est ça que ça veut dire. À plus forte raison. Néanmoins, à plus forte raison, je vais lui faire justice. Le juge dit, elle est tenace, elle est responsable, elle veut se faire entendre. Cette femme est sérieuse, cette femme est déterminée. Je vais l'éviter parce que je suis fatigué qu'elle vienne frapper à la porte. Il est désespéré, je ne sais plus que c'est faire avec. Le seul moyen de m'en débarrasser, je vais écouter sa cause. C'est ça le fond de l'histoire. Donc, je vais l'écouter, puis je vais lui faire justice. Pourquoi? Parce qu'elle frappe, elle frappe, elle frappe, elle frappe. Elle ne s'est pas arrêtée. Je vous pose une question un matin, là. Combien ça fait de temps que tu n'as pas frappé jusqu'à temps que tu as une conviction de quelque chose? Tu poses la question un matin. Combien ça fait de temps que tu n'as pas frappé et que tu n'as pas vu tes prières exaucées? Soyez honnête, là. Bonne question, hein? Combien ça fait de temps que tu n'as pas été avec un mouchoir dans la présence de Dieu et pleuré devant Dieu? Voyez-vous, vous êtes honnête avec vous, là. Moi, je vous pose, pourquoi qu'on ne le fait pas? On s'assit sur quelque chose qui est acquis. Il n'y a rien d'acquis avec Dieu. Exact. Il faut prendre le temps de s'arrêter. Moi, je le dis, là, puis je le dis à qui veut l'entendre. Chez nous, là, ceux qui viennent, moi, j'ai une boîte de Kleenex, puis j'en ai d'experts. Puis oui, je pleure. Un homme pleure. Dis avec moi, oui, je pleure un homme. Les hommes, ils disent, on a le cœur dur, on n'est pas très émotif, mais tout seul, tu as le droit de pleurer. Frappe jusqu'à temps que Dieu vienne répondre à ta prière. Frappe. Soyez pas découragés, frères et sœurs, on est tous dans le même combat. Je vous ai dit ce matin, je vais te parler, puis je vais me parler, là. Donc, Dieu veut entendre. Matthieu 7, 8. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre, celui qui frappe. J'aime le psaume 37, 4 et 5. Fais de tes délices, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Jésus nous enseigne la persévérance, la ténacité. Luc 18, 7. Et Dieu ne serait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il ne tarderait-il pas à leur égard? Voyez-vous la réponse de cette parabole de la part de Jésus? Je vais te faire justice à mes enfants, à vous qui criez nuit et jour. Jésus veut le faire. Persévérons, mes amis. Le psaume 116, verset 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Le psaume 145, verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et entend leurs cris, les sauve. Ça vous donne-tu la soif de courir dans votre chambre de prière? Luc 18, 8, je vous le dis, il le fera prendre ma justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Dieu est prêt à agir, mais est-ce que nous avons la foi pour voir Dieu agir dans notre vie ou qu'on ne lui donne pas l'espace pour agir? Aimer Dieu, c'est une démonstration d'amour, c'est de l'affection. Quand on aime, on prend le temps de se parler. Cantique des Cantiques 2:16, c'est « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Notre vie spirituelle, c'est une question d'amour, c'est une question d'affinité. Le Saint-Esprit est là pour m'aider. C'est une bonne nouvelle, quoi. Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour vous souvenir. Savez-vous, le matin que je me lève, m'en vais dans ma chambre de prière, je dis toujours ceci, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Je veux commencer ma journée avec toi. Sois le bienvenu. Parce qu'on ne sait jamais comment ça se déroule une journée. Hein? Des fois, on se lève sur un bon pied, des fois, on se lève sur un mauvais pied. Puis des fois, il y a une bad luck qui arrive vite, on ne l'a pas vu arriver. Hein? On ne peut pas discerner ce qui va arriver demain, là. Mais le Saint-Esprit est là dans vos faiblesses. Donc, c'est l'Esprit qui intercède en travers nous. Alléluia. Il connaît vos souffrances, il connaît vos projets, il connaît vos émotions, il connaît vos ententes. Le Saint-Esprit, c'est ma force, c'est mon soutien, c'est mon aide dans ma vie spirituelle, c'est mon compagnon là. Il est mon paracletos, il est mon consolateur, il est mon soutien spirituel, il est mon père spirituel. Il est celui qui dirige ma vie. Souvenez-vous, Jésus, dans une 5e année, il était dur, puis il disait, « Seigneur, si tu peux enlever cette coupe-là, enlève-la. » Matthieu 26, 40, 41, il vint vers ses disciples qui les trouvaient endormis. Il dit, « Pierre, vous n'avez pas donc pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faible. La chair, elle est faible. Je vous ai trouvé endormi. » Moi, je crois de tout cœur, mes amis, je vous parle avec mon cœur un matin. Je crois de tout cœur, l'Église doit retrouver sa faveur. Elle doit retrouver le désir de retrouver le cœur de Dieu. Les réunions de prière, c'est les réunions les moins enflammées. Soyons honnêtes, là. Oh, une prière, elle soit, ben non, on va rester à la maison. L'unité, la force de l'Église. Quand on se retrouve dans la prière, dans l'intercession, Jésus dit, je vous ai trouvé endormi, ça n'a pas changé aujourd'hui à bien des niveaux. Notre engagement face à Dieu, c'est un ordre, veille, sois vigilant, surveille, sois attentif, sois cette sentinelle de Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est attentif, c'est quelqu'un qui a l'oreille, c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts, puis s'il y a quelque chose qui s'en vient, il va être capable de parler. Une sentinelle qui est veillante. Alléluia. Il faut veiller sur vos épouses, sur vos enfants, sur votre église, sur les ministres. Il faut veiller. L'ennemi, c'est un voleur. Le rôle de l'enfer, c'est la destruction. C'est rien de moins. La Bible nous dit, si tu te crois debout, fais garde de tomber. Il n'y a personne qui est exempt de tomber ici un matin. J'aime regarder les attaques des prédateurs. Maintenant, on me trouve... Elle dit, t'es malade de regarder des choses comme ça. Vous savez, j'aime prendre cette illustration-là maintenant. Vous savez, les prédateurs, là, quand on écoute des émissions des animaux, là, c'est cruel, hein? Attends, c'est cruel. Tue ça à frette, là, puis ils se font bouffer tout rond, là. Vous savez, quand tu regardes la tactique des prédateurs, pas des prédicateurs, mais des prédateurs... Je m'en vais à chasse. Là. Vous savez, quand les lions sont sournois, oh, ils sont bien camouflés, puis là ils voient, oh, aujourd'hui j'ai faim, je vais manger peut-être peut-être une girafe, ça va être bon, ça va être le menu. Puis une autre journée, oh, un petit hippopotame, ça va peut-être bon. Oh, peut-être demain, ça va être un petit top. Tu sais, ils ont un menu très varié. Hein. Nous, on a les McDo, mais ils ont leur menu. Et quand les animaux, vous savez, surtout quand ils vont aller boire de l'eau, parce que tout animal, toute personne a besoin de boire, et quand ils vont boire, regardez bien, soyez attentifs. Quand ils vont latter, là, ils ont toujours les yeux en avant. Regardez bien, c'est rare que tu vas voir un animal l'été ou l'eau, là, qui ont des yeux forts. Ils ont toutes les pattes comme ça, là-bas. Puis check, savez-vous pourquoi? Il y a des crocs. Il y a des crocs. Puis les crocs ont faim. Puis ils sont patients, ils sont déterminés. Ils ont faim, ils veulent luncher. L'heure du lunch arrive. Et quand les animaux vont aller l'été, et s'ils perdent de vue ou s'ils lâchent l'attention, puis s'il y a un crocodile qui est là, c'est fait. Manque de vigilance. Voyez-vous, dans le monde spirituel ou dans notre réalité à nous, si on ne fait pas attention, on va se faire voler votre foi, votre amour, votre zèle, votre vision, et ce sera sans pitié. Je vous le dis, sans pitié. Vous aurez à avoir toute la compassion. Mais si quelqu'un est décroché, ça vous va prendre du nerf, puis du caractère, puis de la patience. Quand que la foi se fait voler, parce qu'il y a un manque d'attention à quelque part, soyez vigilants, frères et sœurs. Qu'il n'y ait pas des crocs qui vous attendent au bout de la route. Faites attention de faire naufrage de la foi. La Bible nous dit, Hébreu, 1 Pierre 5-8, « Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. » Veillez, priez, soyez attentifs. La chair est faite, mais soyez plus forts ce côté-là. Vous avez, sûrement vous avez vécu ça, on est tous dans le même bateau. Quand vous êtes vraiment actifs dans la prière, il y a des paroles qui descendent dans le cœur. Il y a des avertissements. Ça frappe à la porte. Avez-vous ça, ces choses-là, vous, quand vous faites, tu as des mauvaises intentions, là, ça. Il y a un stop qui se lève, là, va pas là, là. Vous savez, là, quand tu es proche du cœur de Dieu, là, ça marche comme ça, parce que Dieu veille sur ta vie. Le Saint-Esprit veille sur ta vie. Puis si tu prends des mauvaises stratégies, ça frappe à la porte. En tout cas, moi, ça l'a fait dans ma vie, là. La parole sera ton arme de prédilection. Jean-Baptiste, Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des dieux est forcé et c'est ça, les violents qui vont s'en emparer. Donc, soyez déterminés à frayer un chemin ce matin. Quand nous voulons ou nous entrons dans la prière, soyez violents. Soyez déterminés, ayez un cœur à cœur avec Dieu. Qu'est-ce que ça perce? Donc, c'est votre victoire. Donne place à l'Esprit de Dieu. Entraînez-vous. Ça vous parle-tu un petit peu matin, là? C'est du relâchement quelque part, là. Et après trois ennemis de bataille. Premier roi, je vais terminer dans quelques minutes. Premier roi, 18, verset 41-42. Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab va entendre quelque chose. Pas Achab, mais Élie entend quelque chose, puis il va dire au roi Achab là, qu'il monte à aller manger, puis j'entends quelque chose, j'entends un bruit. Attendez-vous quelque chose? Non? Attendez-vous un bruit? Entendu un bruit à travers ta prière. Puis Élie a monté au sommet, il a fait quelque chose. Il dit, il se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Élie, il entend un bruit, il y a une pluie qui s'en vient. Il prie de nouveau. Ce guerrier est encore dans la prière. Il entend, il s'approche. Il y a quelque chose que Dieu est en train d'agir. Sa prière, elle perce. La volonté de Dieu va se faire. Il va démontrer qui règne. Alléluia. Baal va prendre sa place. Dieu va régner. Élie, il croit que la prière va faire une grande efficacité, que la prière va déplacer le bras de Dieu. La prière est capable de changer les choses. La fondation de la foi, c'est pas de douter qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Notre foi doit saisir comment prier, comment y arriver. La prière du juste a une grande efficacité. Croyez-vous ce matin, que Dieu peut changer les éléments dans l'Église. Qu'une prière qui touche le trône de Dieu, c'est une prière qui va changer votre vie. C'est une prière qui va changer la vie de votre famille. C'est une prière qui va changer la vie de votre mari. C'est une prière qui va changer la vie de votre femme, qui va changer la vie de vos enfants. Une prière qui va vous débarrasser du péché dans votre vie. Une prière qui va changer l'atmosphère spirituelle dans nos villes. Dites-moi ce matin que la prière n'est pas nécessaire. Dites-moi pas ces choses-là. Si vous savez combattre, les victoires vont venir. Nous servons le Dieu des changements de saison. Il faut que les saisons changent. Si vous combattez le bon combat de la foi, il y a des choses qui vont se manifester. Dans notre texte, il y a un changement d'atmosphère, une nouvelle saison qui prend place. Après les durs combats, l'Esprit de Dieu va se manifester. Commencez ce matin à mettre vos doutes de côté. Doute de tes doutes. Allô? Doute de tes doutes. Arrête de douter. Les chrétiens, on est une gang de douteux. Pas sûr, pas certain, pas ci, pas ça, pas ta, ta, ta. Pas. On connaît le langage, là.
On ne peut pas aller
prier
avec le frère
d'autre qui la sort inclusive. Élie nous dit que la prière va emporter la faveur de Dieu. J'aimerais dire que, je termine avec ces versets, quelques versets, Hébreux, 1er Roi 18, 43-44. Il dit à son serviteur, Élie, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, le regardait et dit, je ne vois rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la 16e fois, il lui dit, voici un nuage, un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume d'une main d'homme. Élie a la confirmation que sa prière est entendue. Que j'aime. Il y a une confirmation que la prière est attendue. Il dit à son serviteur, tellement convaincu, il dit, monte, puis regarde vers la mer. Regarde-y, puis va jusqu'à 7 fois. Et cet homme regarde, il ne voit rien. Il dit, continue jusqu'à 7 fois. Sa foi n'est pas défaillante. Garde le focus sur la victoire. Il ne remet pas en doute qu'est-ce qu'il a entendu. Il regarde, regarde 7 fois. Voici un petit noir qui s'élève comme la paume de la main. Cet homme dit, oui, je vois le noir. Je vois que Dieu, il y a quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a un petit nuage. Verset 45, à un instant, le ciel se raccourcit, les nuages, il y a une forte pluie. Je vais conclure le message. J'espère vraiment de tout mon cœur ce matin, c'est mon objectif, que Dieu vous démontre sa puissance. Dieu a démontré qui était le Dieu de Élie. C'est pas Baal, c'est pas le monde des ténèbres, c'est notre Dieu qui est Dieu. Baal était détrôné. Attendez-vous, je reviens avec ma question. Entendez-vous dans votre tête, dans votre prière, après peut-être vous souffrez depuis des années de souffrance, de déception, de deuil, de tristesse, où votre vie n'a plus la vie, n'a plus la joie, n'a plus la vie de prière, où c'est à sec, que la pluie, que vous ne ressentez plus rien dans la prière. Entends-tu un bruit ce matin qui veut t'arroser? Entends-tu quelque chose qui peut changer ta vie ce matin? Je vous pose à vous la question. Êtes-vous déterminé ce matin? Vois-tu le petit nuage que Dieu veut mettre sur ta vie ou qu'il veut arroser? Entends-tu le bruit de la promesse ce matin? Vous pouvez, je vous dis honnêtement, vous pouvez rêver à votre guérison physique. Vous pouvez rêver à vos guérisons spirituelles. Que vos deuils se changent en joie. Que vos tristesses partent. Que vos abattements, que vos tristesses que depuis des années vous vivez. Puis dire un matin, c'est fini, moi je vis de quoi de nouveau? Êtes-vous déterminé à dire, Seigneur, entends-tu? Entends-tu qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Allô? Peut-être que vous avez perdu l'espoir d'un jour nouveau. Peut-être que ce matin, la pluie veut venir, puis tu ne veux pas la pluie non plus. Mais Jésus veut la pluie de la résurrection pour ta vie. La vie qui veut se manifester, renouveler ta vie du désert. Vous pouvez entendre dire, c'est fini ce matin la vie de la sécheresse. As-tu retrouvé, le Seigneur veut retrouver, vous vous donner pour retrouver votre joie, votre épanouissement, votre vie de prière. Oh, hallelujah! Jésus. Et là, il entend son peuple, il voit la souffrance de son peuple. Moi, je dirais ceci, puis je vais terminer. Avec ce verset, je passe beaucoup, là. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, Ésaïe 40, 31, renouvellent leur force, prennent leur vol comme l'aigle. Ésaïe 61, 4, je termine. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques. Décombre. Il renouvera des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Le Saint-Esprit veut rebâtir. Mais voulez-vous lui donner la place? Voulez-vous dire, Saint-Esprit, viens guérir mon cœur. Viens délivrer. Je ne veux plus vivre une vie religieuse, mais je veux vivre une vie épanouie en lui. On a tous un peu soupé dans quelque part des certaines choses. Moi, je vous dis, Jésus est celui, et je termine avec Joël 2, 25, Jésus veut redonner ce qui nous a été volé. Il veut remplacer les années qui ont été dévorées par la sauterelle, par le gélec, par le azim, par le gazan. Il veut renouveler, vous redonner qu'est-ce que l'ennemi est venu vous voler. Alléluia. Ce matin, je vais vous faire un appel à la consécration. Soyez honnêtes, là. Combien sont prêts à dire avec moi, j'ai besoin que ma vie de prière soit renouvelée? Mets vos mains, là. Soyez honnêtes, là, avec vous, là. On va se lever un matin ensemble. On a encore quelques minutes. Je vais demander à mon frère Robert s'il veut s'approcher avec son équipe.